Nous allons lire ensemble le texte tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 13. C'est la page 2 de la feuille que nous vous avons remise. C'est la parabole des semences, la bonne et la mauvaise. Matthieu 13, mais je lis sur la feuille. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » C'est le Christ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe, parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Jésus explique plus tard « Cet ennemi, c'est le diable. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. Amen. » Nous avons donc deux clés entre nos mains, le bien et le mal. La langue, nous pouvons la mettre au service du bien, au service du mal. Nos vies, nos pensées, nos actes, tout est dans l'une de ces deux directions. Cette parabole de Jésus est pour nous montrer le pouvoir du mal qui va durer jusqu'à la fin du monde. Que l'on ne nous dise pas qu'il y a des solutions au mal. Il y a une solution, mais nous ne l'avons pas. On a posé la question à André Malraux et on lui a dit quel est le problème capital, l'événement capital de notre siècle. C'était le XXe siècle, André Malraux. Il a dit l'événement capital, c'est le retour de Satan. Je ne sais pas si on peut dire retour, mais enfin, le XXe siècle a été un siècle de désastre. Et Jésus dit, l'ennemi, parce qu'il a expliqué la parabole, l'ennemi qui a semé l'ivraie, et je vais vous dire le mot en grec que vous connaissez, zizanie, l'ennemi qui a semé la zizanie, on sait ce que ça veut dire, c'est le diable. Un chrétien croit en Dieu, mais aussi il croit au diable. Comment ne pas le croire? Comment ne pas croire qu'il y a le feu quand on voit ce qu'on a vu? Depuis 1945, il y a eu 150 guerres avec 40 millions de morts, en plus de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les heures, trois personnes saute sur des mines personnelles ou antipersonnelles, je ne sais pas comment on doit dire, toutes les heures, jour et nuit. C'est-à-dire que tous les ans, 27 000 personnes meurent, surtout des enfants, surtout des petits-enfants, sautent et meurent sur des mines. Mais il y en a encore 100 millions et on ne sait pas où elles sont. Et tous les ans, on en pose encore 1 ou 2 millions. Décidément, on veut le mal. Que faisons-nous devant ce mal? J'ai l'impression qu'on pose une goutte d'eau et encore. N'avez-vous pas l'impression qu'il y a une disproportion entre la force du mal, et l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il est étonné, j'aime beaucoup ce mot, il est étonné. Et vous n'êtes pas étonné, vous? Vous n'êtes pas sidéré devant la puissance du mal? devant la puissance du mal, il y a une disproportion devant l'ampleur, la multiplication du mal. Le règne de la mort aujourd'hui, le règne de l'injustice, le règne de la violence, il y a une disproportion par rapport au bien, non ? Regardez ce soir le journal à la télévision, on ne vous dira pas « Monsieur et Madame Intel vont très bien, leurs enfants se portent bien, le couple Intel s'est remis, on vous montrera des morts, des cadavres, des bruits de guerre ». La sinistrose. Devant le mal que l'on voit à la télé, qui est un peu abstrait parce que c'est loin, on tient. Mais quand on le voit dans sa famille, quand on voit des ruines après des beaux projets, quand on voit la destruction, on a même le sentiment que non seulement on ne fait rien, mais que la foi paraît faible. C'est un sentiment qu'on a. Un sentiment que nous sommes naïfs. Et la foi même, elle perd ses illusions. On a le sentiment qu'on ne fait pas le poids. Vrai ou faux ? Devant le mal. Je vais vous raconter l'histoire, très, très brève. Les enfants d'Israël, il y a très 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 longtemps, ont été esclaves en Égypte. C'est au temps de Moïse, n'est-ce pas ? Et les Égyptiens avaient réduit les enfants d'Israël à un esclavage très, très dur. Ils devaient faire tous les jours des travaux d'argile, des briques, avec de la paille. Ils faisaient cuire, ils faisaient chauffer la brique au soleil avec de la paille. La Bible dit que c'était par cruauté que les Égyptiens imposer toutes ces charges. Cruauté, le mot est cité. Et puis les familles, malgré tout, elles devaient avoir quand même un peu d'espérance au fond du cœur. Elles faisaient des enfants. Voilà. Les enfants, ça apporte une bouffée d'oxygène. Hein. Elles faisaient des enfants. Tellement d'enfants que le pharaon de cette époque, il a ordonné de faire mourir tous les enfants mâles qui naîtraient. Ça commence à se serrer, là. Alors, où est le pouvoir du bien ? Qu'est-ce que l'on peut faire avec un dictateur qui massacre les petits ? Pouvoir du bien, deux femmes lavées entre les mains, deux sages-femmes qui ont laissé vivre les petits garçons et qui disait, vous comprenez, monsieur le pharaon, on arrive pour accoucher les femmes, mais elles sont vigoureuses, les femmes juives. Et puis l'enfant est déjà grand. Il court pas déjà, mais enfin, il est déjà né. Bon. Alors, on leur a demandé aux hommes de faire encore des briques, et encore des briques, mais sans paille. Parce qu'on mettait la paille dans l'argile. Et la paille, vous vous débrouillez, c'est pas mon problème. Alors on courait dans les champs chercher, on s'épuisait à aller chercher de la paille pour faire des briques, et puis les hommes étaient épuisés, les femmes étaient désolées, les enfants n'avaient plus de père, on avait l'impression que tout allait de mal en mal, et puis les familles faisaient encore des enfants. Et le pharaon a dit, tous les petits garçons, vous les jetez dans le fleuve. Vous connaissez l'histoire ? Où est le pouvoir du bien ? Une femme devint enceinte et elle enfanta un fils. C'est peu de choses, hein, devant la monstruosité de l'empire égyptien. Une femme a enfanté un fils et elle a eu confiance en Dieu. Et ce petit garçon, il a grandi, protégé. Et vous savez ce qu'il est devenu ? Ce Moïse, qui est devant la mer Rouge, avec un peuple de 2 millions de personnes, a dit « Ne craignez pas ». Et regardez la délivrance que le Seigneur va vous donner en ce jour-là. Et la mer Rouge s'est ouverte et le peuple a été libéré. Le pouvoir du bien, il est là, parfois insignifiant, mais il est comme une petite graine qui soulève la chape de plomb de l'esclavage, la chape de plomb de la souffrance, du mal, où il n'y a plus d'espoir. La petite graine du bien que Dieu donne peut tout soulever. Alors qu'est-ce que le mal ? Qu'est-ce que le mal ? Pendant ces quelques minutes-là de méditation, je vais essayer de poser la question plusieurs fois, mais je ne vous promets pas d'y répondre. Le mal, c'est le péché. Je crois que c'est Olivier de Serres qui disait « L'homme est arrogant, l'homme est dominateur, mais il est malheureux et pitoyable. » Qu'est-ce que le mal ? Nous avons des définitions, bien sûr, dans la philosophie, dans la Bible. C'est vrai que de tout ce qui est vivant sur la terre, de tout ce que Dieu a créé, l'homme adulte, l'homme qui a réussi, arrogant, c'est le plus dangereux de la terre. Plus dangereux que les lions, plus dangereux que les monstres. Aujourd'hui, on dit qu'il y a encore quelques monstres. Je le crois bien. L'homme est le plus dangereux. C'est l'homme qui a tout détruit, tout cassé sur la terre. Le mystère du mal, il est là, en l'homme. Mais il n'est pas que dans ceux qui ont réussi. Il est en chacun de nous. En chacun de nous, il y a un loup et un agneau. Oui ou non ? Il est capable de faire le bien, il est capable de faire le mal. L'apôtre Paul le disait. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a ce combat, l'axe du mal. À l'époque, on disait il est en Irak, mais il est en chacun de nous. La frontière est en chacun de nous, le bien et le mal. Alors, peut-on comprendre le mal ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je pense que si on pouvait expliquer le mal, si le mal était compréhensible, je dis bien compréhensible, ça voudrait dire que pour nous, avec notre petite cervelle, il est logique. Et s'il est logique, il est naturel. Et s'il est naturel, il est banal. Puis s'il est banal, ben finalement, il est bien. Il y a des mystères sur lesquels je ne veux pas trop réfléchir, le mystère de la Shoah, l'extermination des Juifs. Si on comprenait, je ne comprends pas, je n'ai pas encore compris, si on comprenait ce qui s'est passé, c'est parce que notre cerveau serait en lien, en phase avec le pouvoir du mal. Mais comme mon cerveau ne veut pas être en phase, je ne comprends pas. Voilà, c'est incompréhensible. Jésus dit, il résume en un mot, c'est un ennemi qui a fait cela. Et cet ennemi, c'est le diable. Qui depuis le commencement est venu s'immiscer dans les affaires des hommes et des femmes. Dès que le Seigneur eut créé la terre, il vit que cela était beau, très bon, parfait. Et voilà que le diable est venu et la parole de Dieu, l'ordre de Dieu n'a pas été respecté. L'homme a voulu être libre en se libérant de Dieu. Tragique comme histoire. On se libère de Dieu pour être libre. C'est comme si la rivière disait « Je veux me libérer de ma source parce que je suis trop esclave de ma source. Je dépends d'elle. Je ne veux pas dépendre d'elle. Donc je coupe les ponts. Je ne serai plus lié à ma source. Pauvre rivière, elle va mourir, elle va se dessécher. Elle ne sera plus qu'un marécage. On ne vit pas sans la source. » La rivière. Hein. On ne vit pas sans Dieu, messieurs, dames. On vit grâce à lui. Mais ce jour-là, chaque jour, nous ouvrons la porte au mal et ça fait revenir dans le monde le chaos. Le chaos qui n'existait plus. Dieu a créé le cosmos. Cosmos, ça veut dire beauté. La cosmétique, vous savez ce que ça veut dire, la cosmétique ? Ça vient de cosmos. Il a mis de la beauté partout. Et en ouvrant la porte au mal, en ouvrant la porte au diable, on a remis le chaos. La vie est difficile. Dieu disait, la femme enfantera avec douleur. Ça veut dire, la vie se transmettra, se communiquera dans la douleur. On travaillera avec douleur. Les relations sont douloureuses. La mort est douloureuse. Tout est douloureux. La vie est douloureuse. Le chaos. Tout cela parce que l'être humain a voulu prendre la place de Dieu et il a détruit sa propre nature, sa propre beauté, son équilibre. Alors c'est quoi le mal ? Je pourrais dire déserter le bien, déserter le meilleur, faire un mauvais usage de ce qui est bon. On a gaspillé des belles occasions, la jeunesse peut-être, à travers l'alcool, à travers des séparations, des mauvais choix, des fréquentations mauvaises. On a gaspillé le bon. On a gaspillé la vie. C'est ça le mal. On a gaspillé la vie. Le mal est une faute contre l'amour. L'amour de Dieu qui a tout fait bien pour notre bonheur. Nous avons donc introduit un désordre dans la vie, dans le monde, dans la création. C'est terrifiant. En refusant le conseil de Dieu, nous nous sommes séparés. Le mal, c'est une soustraction. On s'est séparés. Mais le mal, c'est aussi une multiplication. Parce que en faisant le mal, eh bien, le mal s'est propagé, s'est multiplié. En se coupant de Dieu, on s'est coupé des autres. Vous avez vu ce qu'est devenu Abel ? En se coupant de Dieu, Adam et Ève n'auraient jamais pensé que Caïn, leur fils aîné, allait tuer le petit. Rupture avec le monde, rupture avec les autres. La rupture essentielle provoque beaucoup de ruptures. Et Dieu disait à Caïn, qui était en train de murmurer son crime là dans sa tête, il disait « Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte ». Chaque fois que je lis ce passage, j'ai toujours l'impression de... Enfin, je pense toujours à un serpent, un gros serpent, qui était couché à la porte de Caïn. Le péché se couche à ta porte. Mais en face du mal, mes amis, il faut continuer de croire dans la perfection de Dieu. Perfection de Dieu. Dieu ne veut pas ce mal, ce désastre. Ça, on me l'a dit 100 000 fois. Si Dieu était juste, si Dieu était amour, si Dieu. Même si Dieu, je ne comprends pas très bien tout, a permis, il n'a pas voulu, mais il a permis quand même que le mal entre parce qu'il a tout pouvoir. Mais ce n'est pas lui qui est l'auteur, qui veut le mal, qui détruit le monde. Et je dois même dire qu'avant que ce soit notre mal à nous, c'est le mal de Dieu. Ce qui nous fait souffrir Dieu. Parce que Dieu est compatissant, ça veut dire qu'il souffre pour nous. Il souffre avec nous, comme nous. Mais Dieu est innocent de tout mal. Alors il faut être très modeste dans toute cette méditation de ce jour, parce que, vous savez, on ressemble un petit peu à la fourmi. Mettons une fourmi qui est sur une grande affiche. Avec des grosses lettres rouges. Là. La fourmi, elle se promène sur l'affiche. Elle voit la couleur, mais elle ne peut pas lire le message. Parce qu'elle est trop petite, elle colle au message. Elle ne voit même pas la lettre, elle voit de la couleur. Et nous, sur la Terre, on ne voit pas très bien la gravité, le pouvoir, la profondeur du mal. Comment comprendre, mes amis ? Comment comprendre, pendant la guerre de 1994 au Rwanda, les Hutus et les Tutsis se massacraient dans la même communauté, dans la même église même. Ça va mal, hein ? Comment comprendre que le mal ait pu rentrer à ce point jusque dans les familles, entre amis ? Le mal, c'est vraiment la tromperie du diable qui disait « Mais si vous faites ça, mais vous serez comme des dieux. Nous sommes devenus moins... » beaucoup moins que ce que nous étions. Le pouvoir du mal, vous le savez, annule tout. Une femme qui a perdu son enfant, elle est complètement insensible à la beauté du monde. Qu'importe pour elle le progrès de la technique, qu'importe pour elle l'histoire du monde, la beauté de la création, elle est dans son chagrin. Le mal enlève toute joie, le mal détruit tous les bonheurs de la terre. Le mal est plus fort que tous les bonheurs. Un seul mal détruit tout. Un pécheur, dira le livre des Proverbes, détruit beaucoup de biens. Et même les apôtres et les chrétiens ne sont pas épargnés dans ce grand mystère du mal. Jésus disait aux apôtres quelques heures avant de mourir, Simon, c'était l'apôtre Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cribler, ça veut dire vous secouer. Le froment, c'est le blé, on le secouait pour enlever la petite paille, là. on faisait voler de la paille au vent. Il veut dire que Satan vous demande pour vous secouer jusqu'à temps que vous tombiez, que vous en mouriez. Satan vous réclame. Mais, dit Jésus, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi. Donc Dieu s'occupe de nous dans cette grande tourmente du mal. Et Pierre, vous savez, il est allé jusque dans la cour devant Jésus qui était là condamné. Et Pierre a eu peur, là. Il a été reconnu. Et puis il a renié. Il a dit, je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Et là, il a coulé à pic. Ça a été la tourmente, mais Dieu l'a tenu. Et Dieu l'a récupéré, parce que le Seigneur est plus fort que la mort et que le mal. Amen. Alors depuis 20 siècles, nous disons, Seigneur, Seigneur, devant ce grand mystère, délivre-nous du mal. Non ? Vous le dites aussi ? Délivre-nous du mal. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui existe. C'est que devant le mal, on ne s'indigne plus. Indignez-vous ! Il y a un livre qui est sorti, très célèbre. On ne s'indigne plus. On dit, mais ce n'est pas si grave. Il faut élargir sa pensée à l'évolution. Il faut évoluer. Il faut élargir son cœur à la modernité. Ce n'est pas si mal. Vous savez ce que la Bible dit ? Malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal. Malheur à ceux qui appellent mal ce qui est bien. Voilà, aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a des pays dans le monde où les étudiants apprennent une discipline, heureusement qu'en France, ça n'existe pas, une discipline étrange, la torture, le pouvoir du mal, avec des exercices pratiques pour avoir le diplôme de certificat de spécialiste en torture. Alors, je ne sais pas où ils font leurs exercices, j'espère que ce n'est pas chez nous. En tous les cas, ça nous montre que le pouvoir est... Le monde entier est sous le pouvoir de Satan, a dit la Bible. C'est vrai. Dieu n'a jamais voulu le bien, le mal. Il a créé la liberté, mais la liberté nous permet de faire de mal. Si on n'était pas libre, je crois qu'il n'y aurait pas aucun problème, évidemment. Mais nous serions tous des robots. Et Dieu n'aime pas trop les robots. Il veut des enfants. Des enfants qui disent, Père, je te reçois et je veux t'aimer librement dans mon cœur. Mais la gravité du mal, avant de vous parler du pouvoir du bien, la gravité du mal, nous la voyons dans la Bible. Nous la voyons dans la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus est en relation avec le mal. L'ange Gabriel disait à Joseph, le père adoptif de Jésus, il a dit... Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Jésus est mort pour le mal, à cause du mal, pour régler le mal. Et dans la Bible, nous voyons que c'est grave parce que nous voyons la colère de Dieu à plusieurs endroits. Une colère qui pourrait nous effrayer, une coupe de colère. Mais dans la Bible, nous voyons que Jésus a bu la coupe de colère. Moi, je ne l'ai pas bu, et vous non plus. Il a bu cette coupe en mourant à la croix, pour que nous ne soyons pas châtiés avec justice pour le mal que nous avons commis. Et puis, nous voyons la gravité parce que nous voyons dans la Bible la perdition, la condamnation, dans l'au-delà de ceux qui choisissent délibérément le mal et même contre Dieu et sans Dieu, nous voyons donc la gravité du mal. Mais je me suis posé la question, est-ce que Dieu aurait pris le risque de nous créer alors que nous pouvions commettre le mal et en mourir ? Est-ce que vous donneriez une hache ou une bombe à vos petits-enfants ? Est-ce que vous donneriez du poison à vos enfants ? Comme cela, est-ce que Dieu aurait pris le risque de nous donner la liberté comme cela s'il n'y avait pas de risque ? Dieu nous a donné la liberté, mais il avait déjà prévu d'avance le Sauveur. C'est le mystère de la croix. Il avait prévu, il avait promis que à cette race humaine décidément un peu difficile, il avait promis un salut, un sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvoir du bien, pouvoir du mal. Le mal est sous le contrôle de Dieu complètement. La mort aussi, le diable aussi. Nous ne sommes pas le jouet totalement du pouvoir du mal. Et l'apôtre dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Est-ce le mal, le bien, les choses, les grandes choses, les profondeurs de du monde ? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Mais il faut reconnaître que de tous les mystères que nous avons dans la Bible, le mystère du mal est le plus grand, le plus noir, le plus difficile à cerner. Et ce mystère, il nous traverse tous, traverse nos couples, traverse nos familles, nos enfants, nos maisons, notre travail, il est partout. C'est un mystère dans lequel nous sommes tous plongés. Nous en souffrons tous, nous pleurons tous à cause du mal. Nous avons dans notre vie des maladies à cause du mal, des démissions à cause du mal. Le mal règne. Mais quel est où est le pouvoir du bien ? Le pouvoir du bien, il est dans une faible plante, dira le prophète Ésaïe, qui s'est élevée sur la terre. Cette plante qui allait faire tout changer s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a le pouvoir du bien. Le règne de Dieu est venu quand Jésus est venu. Mais ce qui vous étonne peut-être, c'est de voir que malgré que le règne de Dieu est venu, Jésus disait que le royaume venait, il était là, ça y est, c'est fait. Malgré que le règne de Dieu est là, que Jésus est présent, le mal continue. Et le mal s'oppose à Dieu, à moi-même, à nous. Et Jésus dit même que le mal va progresser. Charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre. Jésus disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il pose la question. Ce qui veut dire que le mal va abonder, va grandir. Si, oui, le règne de Jésus a commencé, caché dans nos cœurs. Mais le mal n'est pas supprimé. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous parler de cela. C'est pourquoi il y a la parabole de l'ivraie où on dit, mais enfin quand même, comment ça se fait qu'il y a de la mauvaise herbe ? Le mal n'est pas supprimé. Le mal continue d'être semé et l'ivraie, c'est la mauvaise herbe qui fait du mal. L'ivraie, ça donne de l'ivresse, ça donne de la mort. C'est une plante qui est très dangereuse pour la santé. Et le mal grandit, l'ivraie grandit pendant que le bon blé grandit. Tout grandit ensemble, le bien, le mal. À moins que vous ayez une petite île tranquille. Évidemment, s'il n'y a personne, c'est tranquille. À moins que vous ayez un petit endroit sur la terre où il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de mal, il n'y a même plus de police, il n'y a même plus d'hôpitaux, il n'y a plus de cimetière même, il n'y a plus rien, tellement c'est le bien est là, régnant, un petit paradis sur terre, quoi. La Bible dit même que l'ennemi va se démener de plus en plus. Et il va s'opposer au Christ à la fin du monde, voulant remplacer le Christ. Et que le paganisme, ça je le vois depuis quelques années, va revenir sur la terre. Les païens, la religion païenne, sans Dieu, ou avec des faux dieux, va prendre toute la place sur la terre. Mais pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas détruit tout cela et nous donné tout de suite tout pour être bien ? Le Seigneur, dit la Bible dans Matthieu, expulsera le mal de son royaume. En attendant ce jour, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, en attendant ce jour, je pense que nous pouvons confier notre peine au Seigneur. Je crois que nous n'avons que ce chemin. Lui confier notre peine, lui confier ce qui nous arrive de mal, lui confier peut-être un bien qui nous manque, lui confier nos manquements, peut-être dire comme David disait, « Qui se lèvera pour moi contre les méchants, Seigneur, Seigneur ?» Qui me soutiendra contre ceux qui me font mal ? Personne ne vous fait du mal ? Personne ne vous envoie des paroles qui détruisent, qui brisent ? Confions au Seigneur le mal qui nous touche. confions même nos questions, même notre étonnement. Seigneur, étonnement. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie ? D'où vient qu'il y a des mauvaises herbes ? Jésus, dans cette parabole, semble nous dire que nous pouvons nous scandaliser devant le mal. Il ne faut pas dire c'est humain. Le mal, c'est inhumain. C'est contre l'humain, le mal. Et Jésus n'a pas dit que ça peut être utile. Le mal n'est pas utile. Dieu ne l'a pas voulu, il ne l'accepte pas. Mais il répand chaque jour des graines de bonté. Des paroles. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Ne crains pas, crois seulement. » L'évangile, c'est un sac de grains qui est semé dans le monde entier. Et à l'heure où je vous parle, je suis sûr qu'il y a des milliers d'églises qui entendent le message de l'évangile dans le monde entier. Et ce soir, les Américains prendront la relève, et ensuite ce sera les Asiatiques, et ça continue et ça tourne. Oui, le Seigneur sème son grain, et bien sûr, on se pose la question, mais enfin, s'il est un maître total, pourquoi est-ce qu'il ne peut rien faire ? Pourquoi j'aimerais tant que la guerre en Syrie s'arrête ? Et vous ? J'aimerais tant qu'il n'y ait pas d'enfants qui meurent en Afrique de l'Est et ou ailleurs. Voyez-vous, il y a quelque chose dans la Bible qui est important à dire. Nous sommes encore inachevés. Nous sommes en cours de construction. Le chaos du début qui est un peu revenu, eh bien ce chaos finalement, il a fait que nous ne sommes pas encore finis, nous ne sommes pas encore complets, nous ne sommes pas encore achevés. Nous sommes comme un vase cassé, il y a un morceau qui manque. Et un vase qui est coupé en deux, surtout dans le sens de la hauteur, vous ne mettez rien dedans. Et l'autre partie du vase qui manque, c'est vraiment la personne de Jésus qui vient vers nous. Pour reconstituer l'homme dans toute sa beauté, toute son utilité, toute sa joie, toute sa vérité. Donc nous sommes en cours d'achèvement, nous sommes encore dans le chaos, un peu dans le chaos du début. Il y a encore sur la terre du chaos, mais vous savez comment Dieu crée ? Dieu ne plante pas les arbres, il sème des graines. Parce que s'il plantait des arbres, tout à coup, chez vous, surtout à Rennes, ça nous ferait du bien en ce moment qu'il plante des arbres. On coupe tous les arbres de Rennes. Alors si demain matin, vous voyez votre avenue qui se remplirait d'arbres, on dirait, enfin, ils ont tout remis. Dieu ne plante pas des arbres tout près, il sème sa parole, il sème la semence. Une parole qui va recréer en nous le bien, recréer un monde petit à petit. Mais c'est vrai que dans notre vie, même le bien évolue tout doucement. Nous sommes en cours de création. Nous nous transformons, dit l'apôtre Paul, il disait, nous nous transformons d'éclat en éclat, de lumière en lumière, de progrès en progrès. Parce qu'il y a une semence qui est posée en nous, c'est la semence du Christ, la semence de l'Évangile, la semence de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il y a ce développement très lent, et puis à côté, il y a le mal qui tourbillonne, qui touche nos enfants, nos maisons. C'est vrai que, comme l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, nous voudrions que le Seigneur agisse vite, non ? Qu'il arrache les mauvaises herbes, qu'il fasse grandir les bonnes herbes. Et nous voudrions que tout cela se fasse très vite, mais c'est ainsi. Laissez croître. Il y a un ennemi qui a fait cela. L'ennemi, bien sûr, c'est le diable. Mais je vais vous dire quelque chose. Le diable, il a un petit poste de commande à l'intérieur de nous. Il a quelques manettes. Le diable, il a une petite complicité avec notre cœur. Et Jésus disait, c'est du cœur que viennent les mensonges, les violences, les crimes, les adultères, les débauches. C'est du cœur de l'homme, comme si au fond de nous, il y avait une complicité avec l'adversaire, avec l'ennemi de nos âmes, avec Satan. Et oui, c'est vrai que de notre cœur, peut-être d'anciennes blessures, le mal peut jaillir, peut-être par un travers de notre vie, par un mauvais pli que nous avons pris, par des tendances que nous avons développées en nous, par un manque de développement, eh bien, on a laissé passer le mal en nous. C'est un fleuve. Du cœur de l'homme vient le mal. Il faut le regarder en nous, c'est faux. Il faut avoir ce courage de le regarder comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même. Il n'a pas dit c'est de la faute des autres, il a rentré en lui-même pour s'examiner, pour voir la source du mal qui était sa folie, son orgueil, ses rêves de jeune débauché. Tout était en lui. Il est rentré en lui-même pour voir que le mal, il pouvait être en lui et rétabli aussi. Alors, il faut surmonter le mal par le bien. Je vais vous lire quelques mots très courts de l'Épître aux Romains. Écoutez bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal, sinon on ne va pas s'en sortir. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Dernier conseil, quel est le pouvoir du bien face au mal ? Surmonter le mal par le bien. Je réfléchissais au bien et au mal cette semaine et je me disais, le bien et le mal ne sont pas symétriques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un dieu du mal. Attention, ça n'existe pas. Ce n'est pas symétrique. Par exemple, une petite balle de fusil, rien du tout ça, elle peut détruire un homme qui a mis des années à se construire. Par le travail, par l'amour, par tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il a mis des années à être l'homme qu'il est. Puis un petit truc de rien, un petit métal de rien du tout, peut le tuer en un instant. Ce n'est pas symétrique, hein. C'est un petit rien à côté d'un homme qui a fait beaucoup de choses et qui peut mourir par une petite balle du mal, justement. Donc, le bien n'est pas symétrique par rapport au mal, mais le bien est supérieur à tout. Parce que l'homme qui a été détruit par la balle est supérieur à tout. Il y a quelque chose de surnaturel dans le bien. Alors aujourd'hui, devant ce pouvoir du mal qui nous touche à travers des paroles, à travers des nouvelles, des mauvaises, à travers les tournants de notre famille, les tournants de la vie de nos enfants, les tournants de la situation du monde d'aujourd'hui, le mal nous touche, on le reçoit en plein cœur. C'est comme une mauvaise herbe qui est semée, qui va nous envahir la tête, qui va nous faire pleurer, nous faire gémir. Il nous reste qu'à nous confier à Dieu. Seigneur, Seigneur. Il nous reste qu'à dire, Seigneur, nous implorons ta compassion, ta force. Et Dieu nous donnera la force de surmonter par une capacité extraordinaire, la capacité du pardon envers ceux qui nous offensent, la capacité de nous libérer de la colère et de la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même. À moi de faire justice, dit le Seigneur. À moi de régler les comptes. À moi de payer en retour. Mais ne vous vengez pas vous-même. En nous confiant à Dieu, nous libérons du poids de la colère, du poids de la vengeance. Parce que cette colère et cette vengeance qu'on vit dans le mal, c'est un mal de plus qui s'ajoute au mal et qui va nous détruire et détruire les nôtres autour de nous. La vengeance et la colère nous détruisent la maison où nous sommes. Alors il faut remettre tout entre les mains de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Remettez le mal qu'on vous a fait, sans oublier le mal que vous avez fait, que nous avons fait. Et Dieu va nous libérer, va nous guérir d'une maladie terrible qu'on a tous un peu en nous, la rétribution. C'est ce que c'est la rétribution ? Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, je vais le faire souffrir comme il m'a fait souffrir, la rétribution. Dieu veut nous décharger de tout cela. Dieu veut nous décharger de ces fardeaux, de ces prisons, de cette oppression que le mal met sur nous. Il veut nous ressusciter. Il veut nous faire marcher dans la joie de la vie, dans la paix de sa présence. Il veut nous faire marcher dans un amour qui est plus fort que la mort, plus fort que le mal. Il veut nous faire marcher comme des enfants de lumière. Il veut même nous faire aimer notre prochain. Il n'est pas demandé d'en faire un ami, hein, parce que l'amitié est trop précieuse pour qu'on la donne aux ennemis. Mais il est demandé d'aimer, même de bénir. Bénir, ça veut dire du bien, dire parler en bien, prier pour les autres. Le Seigneur a fait cela. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que dans la vie, dans les évangiles, on voit des gens qui étaient remplis de problèmes, le Seigneur répond, il répond sans répondre par le mal. Il répond à la femme qui dit, viens, ma petite fille est tourmentée par un démon. Et l'apôtre Paul va dans le même sens, il dit, c'est ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Paul nous dit en fait de vaincre le mal en faisant le bien. S'il a faim, on ne va pas aller chez lui frapper tous les jours, vous voulez du pain. S'il a faim, car c'est ainsi que le Christ agit envers nous. C'est ainsi qu'il vient à notre secours. Il n'attend pas qu'on soit parfait. Nous sommes des ennemis pour lui, avec nos pensées, nos actes, notre méchanceté, a dit l'apôtre Paul. Mais le Christ nous répond. Quand cet homme est venu le trouver un jour à la sortie d'un repas, « Ma petite fille va mourir, viens vite, impose-lui les mains. » Il est venu, il a quitté le repas, il est allé chercher cette petite fille dans la mort, il l'a ramenée par une parole, « Jeune fille, Talita Kumi, je te le dis, lève-toi !» Il a répondu à l'appel de cet homme. L'apôtre ajoute, en faisant du bien à ton ennemi, c'est mystérieux ça, tu amasses sur sa tête des charbons ardents, des braises. Ça ne veut pas dire que Dieu va mettre le feu sur sa tête. Ça ne veut pas dire que Dieu va mettre la malédiction sur sa tête. Vous savez qu'autrefois, on soignait certaines plaies avec des braises. C'est pas agréable, attention. Maintenant, on endort tout le mal. Mais à l'époque, on mettait la braise là où il y avait des... On cautérisait. Et ça semble vouloir dire, eh bien, si vous faites le bien à celui qui vous fait le mal, le Seigneur aussi va prendre soin de lui, il va s'occuper de lui, il va le sauver, il va le guérir, il va l'amener à aller plus loin. Il va prendre soin de ceux dont vous prenez soin. Dieu nous propose de faire du bien et lui nous suivra. Ce problème, on va pas finir aujourd'hui d'en parler, c'est pas possible. Le pouvoir du bien, le pouvoir du mal. Mais Dieu, je vais arriver à la fin, surmonte le mal par le bien. Pas forcément, le bien ne veut pas dire agréable. Il a surmonté le mal par l'amour. Il a donné son fils dans le mal. Son fils a vécu une séparation. Il a vécu la séparation de Dieu. Il a donné son fils pour que le mal soit vaincu en nous et pour que le bien triomphe en nous. Il surmonte le mal par le bien. Ce n'est pas par plaisir, mais c'est par amour. Quand Jésus a été condamné dans le prétoire devant Pilate, Pilate était très gêné. Mais je ne trouve rien de mal en lui. C'est votre roi, allez, prenez-le. Alors les juifs, tout le clergé juif de l'époque disait qu'il soit crucifié, donne-nous Barabbas, un fameux prisonnier, un meurtrier. Personne n'a pris la défense de Jésus, personne. Pouvoir du mal. Et quand il était sur la croix, personne n'a pris la défense de Jésus. Personne n'a dit, cet homme, il est blanc comme la neige. Cet homme, il est blanc comme, il est pur comme l'agneau. Le pouvoir du mal était là, sur le mont du Golgotha. Jésus est abandonné de tous. Même Jean ne crie pas la vérité au pied de la croix. Pierre, oh, il est parti. Et tous les autres. Personne n'a dit une parole positive pour le bien. Une personne. Un brigand qui meurt à quelques centimètres de lui. On dit que les croix étaient très proches sur le mont Golgotha. Il y avait peut-être 50 centimètres entre les mains. 50 centimètres. Et cet homme qui meurt à côté de Jésus, il reconnaît que c'est le Christ, le Messie, le Sauveur et le Roi promis. Et il va certainement dans sa douleur parce qu'il est crucifié, parce qu'il est, il a les mains percées et tout son corps saigne aussi et il va mourir dans quelques minutes. Dans un effort, il va se tourner vers Jésus alors que c'est la nuit noire. Il fait nuit à midi, il n'y a plus de soleil, il n'y a que des voix qui passent ici et là sur la montagne, que des voix de critiques, que des injures. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reconnu, mieux que les apôtres, sans comprendre la Bible, il a reconnu que celui qui meurt à côté de lui, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Ne crains-tu pas Dieu ? Nous subissons la même condamnation. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, ce brigand, quand il est arrivé dans le paradis, il a dû faire la surprise de tout le monde. Oh, comment lui ? Lui ? Pas lui quand même. Ben oui. Il pouvait dire, mais voyez-vous, je n'ai pas étudié les Écritures comme vous. Je ne connaissais pas très bien tout ça. Mais Jésus m'a regardé. J'ai écouté ces quelques paroles et j'ai tout compris. Et Jésus lui avait dit, tu seras avec moi. Parce que le paradis, ce n'est pas seulement de la beauté. On connaît des beautés qui sont terrifiantes. C'est la beauté avec Jésus. C'est une vie avec Jésus. Pas une belle vie simplement, une belle vie avec Jésus, pour Jésus. Le pouvoir du bien était là, dans ce regard, dans cette parole qui a touché le cœur de ce brigand sur la croix. Le pouvoir du bien, il est comme une petite graine faible que vous pouvez accueillir. Dieu vous donne aujourd'hui, je conclus, le pouvoir de vous relever alors que vous êtes touché par le mal, le pouvoir de retrouver l'ordre en vous, le pouvoir de devenir même des enfants de Dieu. Par ce pouvoir qui s'appelle, par ce don, par ce cadeau, par cette formidable grâce qui s'appelle la grâce, justement, la grâce. C'est-à-dire un amour généreux qui vous dit, je sais qui tu es, je sais que tu as mal agi, je sais que tu es pauvre, misérable, aveugle, nu, que tu ne comprends plus rien, mais si tu tournes tes regards vers moi, dit le Seigneur, je te relèverai, je te pardonnerai, eh bien cette grâce, elle est à votre disposition. Parce que seule la grâce de Dieu peut nous délivrer du pouvoir du mal. Seule la grâce de Dieu. Certaines paroles de mal ont tué des gens. Paroles qu'ils ont entendues ou paroles qu'ils ont prononcées. Le pouvoir du mal est grand. Le pouvoir du bien, c'est le Fils de Dieu qui l'a entre les mains. C'est une miséricorde, c'est un pardon, c'est une chaleur, c'est une présence, c'est une beauté, c'est je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Eh bien, ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. Quel mal peut faire les hommes ? Quel mal peut faire la vie ? Puisque le Seigneur est avec vous, ne craignez pas. Amen.